Bonjour à toutes et à tous. Merci encore à l'équipe de louanges pour ce temps que nous avons eu devant Dieu. Cela fait déjà quelques semaines que nous parcourons des extraits des livres de 1 et 2 rois. Et encore aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire. Après la mort du roi Salomon, pour récapituler un petit peu, le royaume s'est divisé en deux, Israël au nord, Juda au sud. Au nord, les rois se succèdent et sont tous aussi mauvais les uns que les autres, c'est-à-dire infidèles à l'Éternel. Ils entraînent même le peuple dans leur péché. Et pourtant, Dieu les rappelle à l'ordre à plusieurs reprises en envoyant des prophètes. Nous avons brièvement vu le ministère d'Élie et celui d'Élisée. Alors qu'en est-il au sud ? Eh bien, au sud, la situation est un petit peu différente. La lignée de David comporte quelques descendants qui reçoivent parfois une bonne appréciation. L'auteur dit par exemple du roi Assa la chose suivante, « Assa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. » Mais d'autres descendants marchent dans la mauvaise voie. Et c'est le cas du roi Akaz, dont il est question en 2 Rois chapitre 16. Donc le chapitre qui va précéder le texte d'aujourd'hui. Dieu s'est montré très patient envers Israël. Mais à un moment donné, la coupe est pleine. Et les sanctions que Dieu avait prévues en cas de désobéissance finissent par tomber. C'était prévu notamment dans Deutéronome chapitre 28. Le châtiment ultime pour les Israélites, c'est l'exil. Le fait d'être déporté sur une terre étrangère, chassé loin de leur pays, chassé loin de leur maison. Et le texte de cet après-midi, dans 2 Rois chapitre 17, évoque les raisons qui expliquent la fin du royaume du Nord. Pourquoi le royaume du Nord a finalement été détruit et déporté ? Jusque-là, l'auteur a raconté les événements en passant d'un roi à l'autre, d'un royaume à l'autre. Mais là, il prend la peine de montrer que c'est à cause des péchés du peuple que ce dernier a subi l'exil. Et plus précisément, parce qu'il a adoré des idoles. Et je vous propose d'écouter à présent la lecture de la parole de Dieu. Et je commencerai par le début du chapitre 17. La 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanassar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à Sô, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Samarie, donc la capitale du royaume du Nord. Il en fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Shalar, ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Donc ça, c'est pour présenter un peu le contexte et comment le royaume du Nord a été détruit par les Assyriens. On en vient au texte d'aujourd'hui. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours, de gardes ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilé devant eux. Et ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires, comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment se termine l'histoire pour le royaume d'Israël. Qu'est-ce que l'auteur du livre des rois a voulu enseigner au premier lecteur qui était alors en exil ? Il me semble que le message central de ce texte peut se formuler ainsi. Ne faisons pas la même erreur qu'Israël, dont l'idolâtrie a causé sa perte. Ne faisons pas la même erreur qu'Israël, dont l'idolâtrie a causé sa perte. Les Israélites ont commis des erreurs, et il nous est profitable d'en tirer des leçons pour notre vie actuelle. D'abord, gardons-nous de servir les idoles. Gardons-nous également de rejeter la parole de Dieu, comme l'ont fait les Israélites. Et enfin, gardons-nous de courir après le vent. D'abord, gardons-nous de servir les idoles. Depuis la sortie d'Égypte, à l'époque de Moïse, le peuple d'Israël est très vite tombé dans l'idolâtrie. Nous avons vu en début d'année l'épisode du veau d'or. Le peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage demande à Aaron de faire une image taillée pour adorer l'Éternel. Or, juste avant, Dieu avait commandé de ne pas faire cela. Et depuis ce moment, dans le désert, Israël s'est parfois ressaisi quand il était conduit par de bons chefs, mais très souvent, les Israélites ont craint d'autres dieux, comme nous le voyons au verset 7. Ils ont suivi les pratiques des autres peuples, ils ont imité leurs coutumes, verset 8. Et les rois qui ont dirigé Israël pendant cette période n'ont fait qu'empirer la situation. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes les pratiques, nous l'avons lu. Mais je remarque simplement que l'auteur souligne que ce que le peuple a fait est mal aux yeux de Dieu. Regardez le verset 7. Les Israélites ont péché contre l'Éternel leur Dieu. Verset 9. Les Israélites ont commis en secret des choses, des actes inadmissibles contre l'Éternel leur Dieu. De même, au verset 11, ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Et il y a d'autres mentions dans ce texte, notamment de la colère de Dieu. Ce qu'Israël a fait a mis Dieu en colère. C'est la réaction normale d'un Dieu saint qui ne tolère pas le mal, qui ne tolère pas le péché. Alors qu'ont-ils fait de mal ? Ils ont servi d'autres dieux. Ils ont servi des idoles qui ont eu autant d'importance, voire plus d'importance que l'Éternel. Sans oublier tous les rites immoraux qui accompagnaient ces cultes païens. L'idolâtrie est un péché. Et l'idolâtrie enfreint les deux premiers commandements que nous lisons dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le deuxième, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Notre Dieu ne tolère aucun rival. Il est jaloux. Et à juste titre, car rien dans ce monde créé ou dans l'univers n'a autant d'importance que Dieu. Or, les Israélites ont fait tout le contraire de ce qui est écrit ici. Ils se sont fait des veaux d'or, c'est ce que nous lisons au verset 16. Cette histoire est liée à Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord. Ils ont fait deux veaux d'or. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes, c'est-à-dire les astres comme le soleil, la lune, peut-être les étoiles aussi. Ils ont servi Baal, notamment sous le règne d'Akab et de Jézabel. Oui, Israël a fait tout ça, et bien d'autres horreurs, comme par exemple au verset 17, les sacrifices humains. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Je ne sais pas si vous imaginez. Lorsque nous lisons cette description, nous ne pouvons qu'être d'accord avec l'auteur. Les Israélites ont mal agi envers l'Éternel, leur Dieu, celui qui était venu les chercher en Égypte pour les libérer de leur condition d'esclaves. Les Israélites ont mal agi contre Dieu. Comment ce peuple a-t-il pu être si ingrat, si infidèle ? Et l'auteur écrit toutes ces choses pour que les premiers lecteurs se rendent compte du mal qui a été fait, de la gravité du péché, de la gravité de l'idolâtrie. Et cela n'a pas été sans conséquence. Et cela nous donne aussi cet après-midi l'occasion de nous examiner, comme dans un miroir. Avons-nous des idoles dans le cœur ? Est-ce qu'il existe des choses dans notre vie qui ont plus d'importance que le Dieu qui nous a fait grâce par Jésus ? Est-ce que notre cœur s'attache à ces choses ? À notre époque, chez certains peuples, on adore encore des divinités. On se prosterne devant des statues ou des totems. En Occident, ça semble plus subtil. À la place des statues, certains se ruinent pour posséder tel ou tel gadget. Il n'y a pas longtemps, Damaris et moi, nous sommes tombés sur un reportage où on voyait une femme qui affichait fièrement sa collection d'objets Pokémon. Visiblement, elle y a mis son temps et son argent, une passion qu'elle partage avec son fils. Que dire d'autre ? Dans une société où l'individu est survalorisé, est-ce que ma personne est plus importante que Dieu ? Mon image, mon confort, ma réussite, mes loisirs, mes vacances, mon bien-être, ma santé, que de choses qui tournent autour de moi. Est-ce que ma personne est plus importante que Dieu ? Si on creuse un petit peu. Ce que je remarque dans notre texte, c'est que les Israélites n'ont pas inventé leurs mauvaises pratiques. Ils ont fait comme les autres nations. Nous lisons au verset 15 qu'ils ont suivi les nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. À quel point notre environnement ou notre entourage nous influence-t-il dans la mauvaise direction? Autre question encore. Si nous passons peu de temps avec le Seigneur, l'avons-nous remplacé par autre chose? Après tout ça, si nous nous examinons honnêtement, sommes-nous coupables d'idolâtrie? Et la prise de conscience qu'il y a une ou plusieurs idoles dans notre cœur peut être douloureuse, mais c'est salutaire si cela nous conduit à demander pardon au Seigneur et à changer. Il nous faut renoncer à servir les idoles pour servir le seul vrai Dieu. Et tout cela ne serait pas arrivé si les Israélites avaient écouté la parole de Dieu, s'ils s'étaient attachés aux commandements que Dieu leur avait donnés. Et c'est là l'objet de mon deuxième point. Gardons-nous de rejeter la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 12 que Dieu avait déjà donné ses instructions. Nous avons fait mention des deux premiers commandements. Et en plus de cela, Dieu a envoyé des prophètes pour parler de sa part. Je précise simplement ici au verset 13 que lorsqu'on parle de voyant, ça n'a rien à voir avec la voyance comme nous l'entendons aujourd'hui. Ici, c'est un synonyme de prophète pour indiquer quelqu'un qui reçoit des révélations de la part de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ici le mot voyant. Dieu a envoyé Élie et Élisée dans le royaume du Nord pour les avertir, pour les appeler à changer d'attitude, à suivre l'Éternel. Mais vous le savez, le cœur de l'homme pécheur est tortueux, malgré les rappels de Dieu. Malgré les rappels à l'ordre, le peuple reste désobéissant, préfère suivre sa manière de vivre, préfère des idoles sans consistance, disons-nous au verset 15. L'auteur décrit leur comportement par des verbes. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires. Littéralement, ils ont raidi leur nuque pour indiquer combien ils sont entêtés. Verset 15, ils ont rejeté ces prescriptions. Et verset 16, ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel. Israël a rejeté les paroles que Dieu lui a adressées. Israël ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Dieu l'avait déjà prévenu. La culpabilité d'Israël est pleine et entière. Et en se détournant de Dieu et de sa parole, les Israélites n'ont fait que s'enfoncer davantage dans le mal. Ce que Dieu a ordonné était bon pour eux. Dieu ne donne pas des commandements pour tyranniser les hommes, pour les garder sous son contrôle. Dieu nous donne des commandements pour notre bien, pour notre liberté, pour notre bonheur. Car lorsque nous nous écartons de sa parole, c'est là que nous nous écartons aussi du bien. Dieu avait dit de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas imiter les autres nations, de ne pas pratiquer ces rites païens. Dieu avait donné toutes ces lois, et pourtant, les Israélites n'en ont pas tenu compte. À titre de comparaison, en tant que parent, vous êtes sûrement déçu, même agacé, quand votre enfant ne tient pas compte de vos paroles. J'imagine que ce que vous dites à votre enfant, vous le dites pour son bien. Pourtant, les parents ne sont pas parfaits, mais Dieu est parfait. Et ses instructions sont vraiment pour notre bien. Si Dieu nous demande de ne pas servir les idoles, c'est parce qu'il sait que de ce côté-là, il n'y a rien de bon pour nous. La vie se trouve en Dieu. Pourquoi notre cœur est-il si inconstant? Pourquoi avons-nous tellement de mal à obéir à ce Dieu qui nous aime? qu'il ne soit pas dit de nous, comme des Israélites, que nous avons rejeté ou abandonné ses commandements. Le Seigneur nous commande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et c'est assurément en appliquant ce commandement d'aimer Dieu que nous échappons au piège de l'idolâtrie. Avons-nous considéré que Dieu nous demande toute notre personne pour l'aimer ? Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Nous pouvons lire et étudier la Bible semaine après semaine, année après année. Mais lire, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il obéir, mettre en pratique, se mettre en action, vivre ce que Dieu nous demande de faire en l'aimant, lui, et en aimant notre prochain. Et le texte de cet après-midi nous enseigne à faire tout le contraire de ce que les Israélites ont fait. Laissons le Saint-Esprit réformer nos pensées entachées de péché. Laissons l'Esprit de Dieu nous donner la capacité de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Par nous-mêmes, et sans compter sur Dieu, nous allons droit dans le mur. Peut-être qu'il y aura des petits changements, parce que nous nous rendons compte du mal que nous faisons. Mais à terme, le naturel, notre cœur pécheur, revient au galop. Les évangéliques sont connus pour leur attachement à la parole. Ils sont connus pour leur attachement à l'autorité de la parole. Mais je constate, en m'incluant dedans, que la mise en pratique nous fait souvent défaut. Oui, nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique, il y a souvent un fossé. Malheureusement. Et vous pensez bien qu'en exil, les Israélites qui lisaient ce texte ont pu se dire « On aurait dû écouter la parole de Dieu. On aurait dû faire ce que commande sa loi. » Mais pour eux, c'était déjà le temps des regrets. La sanction était tombée. Et pour nous, il est encore temps de tenir compte de la parole de Dieu, qui comporte aussi des avertissements. Et j'aimerais simplement lire un exemple pour illustrer cela. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul écrit à cette église, et voici ce qu'il leur dit, « Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. » Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. J'ai choisi cet extrait parce que la soif de posséder, la convoitise, est qualifiée d'idolâtrie. C'était peut-être notre ancienne manière de vivre, mais désormais, ce que Dieu nous commande est clair. Toute pratique dégradante, toute convoitise, tout propos grossier ne doivent plus faire partie de notre nouvelle vie en Christ. Et devant Dieu, l'excuse « tout le monde le fait autour de moi » ne fonctionne pas. Aimes-tu ton Dieu suffisamment pour faire ce qu'il te demande dans sa parole ? Et ce qui est certain, c'est que ce n'était pas le cas des Israélites. Ils n'aimaient pas suffisamment Dieu pour cela. Et puisque le peuple a rejeté les commandements de Dieu, de la même manière, Dieu les a rejetés. C'est ce que nous voyons au verset 20. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. La relation entre Dieu et Israël est rompue. Dieu, qui est bien patient, ne tolère plus leur égarement et les chasse loin de lui. loin du lieu que Dieu avait choisi pour établir sa présence. Et ce sont eux qui ont rompu cette relation en se tournant vers d'autres dieux. Et au bout du compte, ils ont échangé l'adoration qui revient à Dieu et à Dieu seul. Ils ont échangé cela contre du vent. Et c'est par là que j'aimerais terminer. Gardons-nous de courir après le vent. Avez-vous déjà essayé de courir après le vent ? Alors peut-être lorsque vous étiez enfant, vous essayez d'attraper le vent. Est-ce que vous connaissez des gens qui courent après le vent ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un comportement totalement insensé, absurde ? Eh bien, suivre des idoles est du même ordre. Et j'aimerais me concentrer sur cette partie du verset 15, concernant le comportement des Israélites. Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Que sont les idoles ? Ici, elles sont caractérisées par le fait d'être sans consistance, vides, sans valeur. Dans une version plus proche du texte hébreu, nous lisons « Ils se sont ralliés à des vanités et se sont rendus eux-mêmes vains. » C'est le même terme que l'on retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est comme courir après le vent. Se prosterner devant un bout de bois. Sacrifier ses enfants sur l'autel d'un Dieu qui n'existe pas. Tout cela est absurde. C'est courir après le vent. Et pourtant, c'était ce que faisaient les Israélites qui avaient rejeté la parole de Dieu. Le Dieu qui s'est révélé dans la Bible est le seul vrai Dieu. Et l'apôtre Paul développe cette même pensée. Il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6, « Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. » Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Et un peu plus loin dans son argumentation, l'apôtre souligne qu'adorer des idoles n'est pas anodin. Derrière les idoles se cachent des démons. Vous pourrez lire ce passage au chapitre 10, à partir du verset 14. D'ailleurs, dans ce verset 14, l'apôtre Paul dit « Fuyez l'idolâtrie ». Aujourd'hui, si nos idoles ne sont plus des bouts de bois, il nous arrive de nous perdre dans bien des futilités, des choses sans valeur au vu de l'éternité. Par expérience, je sais qu'on peut perdre des heures sur Netflix, dans les jeux vidéo, devant la télévision, sur les réseaux sociaux ou sur les autres médias. Et je le confesse, je suis vulnérable dans ce domaine. Je dois faire attention. Nous devons faire attention. Dans notre monde, on nous vante aussi la quête du bonheur, la quête du succès et de la gloire, la quête du grand amour. Nous voyons cela dans les films, dans les séries, dans la vie de nos stars préférées. Le monde dans lequel nous vivons nous fait courir après des idoles, après le vent. Et celles et ceux qui suivent ces quêtes finissent par devenir eux-mêmes comme leurs idoles, sans consistance. De l'extérieur, nous dirions qu'ils ont gâché leur vie, car ils sont passés à côté du plus important. Pensez à cette femme qui avait sa collection de Pokémon. Frères et sœurs, revenons à ce que dit l'apôtre Paul. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui nous vivons. Au quotidien, nous avons le choix entre consacrer du temps pour ce qui a peu ou pas de valeur, et consacrer du temps pour Dieu qui a infiniment plus de valeur. Nous avons une décision à prendre chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons une décision à prendre. Les Israélites avaient choisi de suivre d'autres dieux et cela les a conduits à leur ruine, à la destruction de leur royaume. Cela ne vaut pas la peine de courir après des futilités. Si nous appartenons au Christ, le Seigneur est la personne la plus importante. Et consacrer toute sa vie pour le suivre n'est pas vain. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de toute une vie. Au contraire, seul Dieu donne du sens à notre existence. Seul Dieu nous comble de manière satisfaisante. Dans cette période de rentrée, de reprise des activités, tu peux décider de ne pas faire comme le monde qui vit sans Dieu. Demande régulièrement au Seigneur de te donner la capacité et la volonté de renoncer à tout ce qui est futile dans ce monde, afin de consacrer notre temps, notre énergie, notre attention à notre Dieu qui a tellement plus de valeur. Et concrètement, cela veut dire passer plus de temps avec ton Seigneur et ton Sauveur. Faisons la chasse aux futilités, aux idoles. Prions Dieu qu'il continue de changer notre cœur, parce qu'il a déjà commencé à le faire, mais on voit combien nous luttons. Prions Dieu qu'il continue de changer notre cœur, ce que lui seul peut faire dans sa grâce. Le texte de 2 Rois 17 nous est donné pour notre instruction, pour nous avertir, pour nous orienter vers une attitude qui plaise à Dieu. Les Israélites ont échoué, les Judéens ont aussi échoué, et nous échouons aussi à bien des égards. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus-Christ est venu dans notre monde pour nous sauver, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre, et j'aimerais terminer par ce texte. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Et nous avons chanté à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous, pour moi. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions montrer une vidéo qui nous permettra de prolonger notre réflexion. Et suite à cela, je reviendrai pour prier. Seigneur, tu nous dis encore dans ta parole, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Seigneur, peut-être que en entendant ta parole cet après-midi, en voyant également cette vidéo, on se sent concerné par ce que tu nous dis cet après-midi. Parce qu'à bien des égards, Seigneur, nous avons eu des occasions où nous nous sommes éloignés de toi. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les heures que nous avons pu perdre pour des futilités. Pardon pour ces idoles après lesquelles nous courons comme après le vent. Pardon, Seigneur, parce que nous voyons que tout cela nous éloigne de toi. Et cet après-midi, nous voulons encore te dire, Seigneur, que nous revenons à toi. dans tes bras d'amour. Parce que tu es encore prêt à nous accueillir, à nous pardonner. On va te remercier, Seigneur, parce que ta grâce est tellement immense que nous pouvons nous présenter devant toi et reconnaître notre incapacité à pouvoir t'obéir comme il faut. Tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, mais nous n'y arrivons pas, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous en donnes le désir, la volonté, la motivation, jour après jour. Oh, garde-nous, Seigneur, de servir des idoles. Garde-nous, Seigneur, de pouvoir rejeter ta parole, d'oublier de mettre en pratique. Et garde-nous, Seigneur, de courir après le vent, car la vie est tellement courte. Mais merci, Seigneur, parce que dans ta grâce, tu nous avertis encore. Dans ta grâce, tu viens encore vers nous. C'est encore une fois toi qui prends l'initiative. Et nous nous confions pleinement en ta grâce. Amen.